Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ramchandra fait partie de ces rencontres que l'on n'oublie pas. Sa vie est exceptionnelle. Ram est aujourd'hui au service de l'humanité et de la conscience divine. À l'âge de 30 ans, il choisit de s'impliquer dans l'éducation et crée un ashram dans les environs de Katmandou au Népal. Aujourd'hui, plus de 200 enfants y sont nourris et logés. Cette émission est la troisième partie de l'émission Regarde ailleurs. Donc à l'âge de 13 ans, à l'âge de 12 ans, tu quittes les montagnes du Népal, de l'Himalaya, avec cette envie de découvrir le monde, avec cette envie de laisser aussi ta place à tes frères et sœurs, parce que tu es issu d'une famille très pauvre, et commence toute une série de rencontres qui sont plus ou moins marquantes. Tu découvres aussi la faim, ce que c'est que d'avoir faim, les petits plaisirs simples de la vie. Tu me parles d'ananas, de fruits colorés qui rendent finalement la vie comme un petit paradis. Tu te lances dans l'armée, tu deviens militaire. Combien de temps tu vas rester dans cette aventure? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui t'a emmené dans cette aventure-là, c'est cette idée de pouvoir protéger tes animaux dans les montagnes de l'Himalaya. Pas du tout défendre ton pays.
Oui. D'abord, c'était mon but, quoi. J'aurai un fusil et je vais sauver mes animaux. Mais après 2 ans, ce n'était pas le cas. Je n'aimais pas rester dans la militaire. Et puis, j'ai rencontré un sadhu. Et je me posais de me demander des questions. Qu'est-ce que je fais ici avec le fusil? Je ne veux pas tirer des gens, et puis voilà, je ne veux pas battre, c'est pas ma vie. Comme je suis un brahmin, alors le sadhu m'a dit, tu es un brahmin, ce n'est pas ton dharma, son devoir de tuer quelqu'un ou battre contre quelqu'un. Ton dharma, ton devoir est de s'intérioriser, de méditer, de découvrir de soi-même, lire les Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, toutes les connaissances spirituelles.
Mais tu étais déjà familier avec ces connaissances, tu parles de Bhagavad Gita, tu parles des Vedas. C'est quelque chose dont on parlait dans ton village himalayen ou pas du tout? Et tu dis tu étais brahmine. Comment le sadhu t'a identifié comme un brahmine? Et qu'est-ce que c'est qu'un brahmine?
Brahmine, c'est une caste par naissance, qui est une haute caste, considérée très haute caste, normalement, qui doit réaliser dans leur vie le Brahman, c'est-à-dire le suprême, qui envahit toute la terre, toute la création. Voilà, réaliser sa présence, son présence partout. C'était le caste.
Mais tu es né dans une famille de Brahmin?
Voilà, oui, exactement. Alors, oui, on connaît un peu, mais quand j'étais en militaire, j'ai découvert beaucoup de choses parce qu'il y avait beaucoup de magasins qui venaient en hindi et je lisais. J'étais assez active quand j'étais en militaire. Je voulais vraiment avaler des choses après, petit à petit, comme il y avait tellement de journaux. Il y avait les journaux quotidiens, des journaux, des magasins de 15 jours, un mois. Alors, tout je lisais. Alors, il y avait des articles sur différents sujets. Qu'est-ce que c'est le yoga, méditation, le Veda, tout ça. Alors, ça m'a donné quelque chose supplémentaire.
Tu as appris à lire à l'armée ou tu apprenais déjà à lire dans ton village de l'Himalaya?
Oui, j'ai appris là, dans la militaire, et je connaissais un peu l'alphabet Devanagari, qui est écrit en hindi et népalais, c'est pareil. Alors ça m'a aidé, oui.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ramchandra, ce yoga intégral, ce travail de l'être pour atteindre cette présence divine, cette énergie divine. On est ici en Inde. Quel est le lien aujourd'hui de la société indienne à la spiritualité? Parce qu'on est aussi dans ce monde matériel. L'Inde, pendant longtemps, ou dans l'imaginaire des Occidentaux, a été le pays le plus spirituel du monde, avec des temples, des ashrams, plein de divinités partout. Un travail sur la conscience, le travail du yoga. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a toujours cette spiritualité plus forte en Inde qu'ailleurs?
Oui, c'est dans cette région, surtout Népal et l'Inde, c'est plus forte à cause il y a des êtres qui sont encore là. Et puis surtout, dans ce temps-là, le Dieu avait choisi cette région, Népal, l'Inde, toute cette région Sud-Asie, pour se manifester lui-même. Peut-être dans notre ion, on dit en anglais, on dit ion, dans un autre l'âge très immense, c'est-à-dire le temps qui peut être des milliards d'années après, peut-être il va choisir l'Europe, peut-être il va choisir l'Amérique.
En Europe, on croit qu'il a choisi l'Europe par Jésus, par la présence du Christ.
Oui, mais oui, bien sûr, mais peut-être on n'a pas pu lui comprendre mieux. Ça dépend aussi. Il y a l'énergie qui vient et si on le rejette ou on le mal pratique, ça aussi. Mais ici, ce qui est là, dans notre culture, notre vie est basée sur cette philosophie, sur cette... spiritualité, si on vraiment fait. Mais maintenant, comme tu m'as demandé ta question, les gens, ils sont derrière matérialisme. Ils veulent le matérialisme parce que comme maintenant, il y a la télé, le portable, l'ordinateur, toutes ces modernités, quand ils voient même les jeunes, quand ils voient en Europe, en Amérique, les gens, ils vivent comme ça. Voilà. C'est matérialisme qui est la vraie, qui est la réalité. Alors, bien sûr, ils tombent vers cette piège facilement, mais après, ils réalisent que je suis dans vraiment une piège, il faut que je sorte. Des fois, ça devient tellement dur à sortir, mais des fois, il sort. Mais quand même, cette énergie est là. Mais ça dépend de soi-même aussi. Si tu es ouvert, si quand tu viens ici, tu vas sentir. Si tu n'es pas ouvert, si tu as dans ta tête autre chose, tu ne vas pas sentir.
Freed up the five passions. Dragon has been slain. I have been released by love, and my heart dwells in the name. My voice sings the praises of thy greatness and thy love. Enraptured in the ecstasy, I am one with all in the circle of light, in the circle of light, in the has been slain. I have been released by love, and my heart dwells in the name. My voice sings the praises of thy greatness and thy love. Enraptured in the ecstasy, one with all in the circle of light. In the circle of light. In the circle.
Résumer, pour reprendre un petit peu, pour avancer dans l'histoire de ton existence, tu es né au Népal, dans un petit village himalayen. Très jeune, tu fais le choix de quitter ta famille pour aller à la rencontre du monde. Commence un long voyage initiatique, un long voyage spirituel. À l'âge de 12 ans, tu quittes chez toi, tu te retrouves militaire, puis sadhu, appelé par un bouquin que tu trouves de Sri Aurobindo pour arriver ici, dans le sud de l'Inde, à Pondichéry, où tu passeras 12 ans de ta vie. Et ensuite, qu'est-ce qui a fait que tu retournes au Népal ? Parce que je t'ai rencontré chez toi, dans ton ashram, à Katmandou, il y a quelques mois de ça. Donc, quelle a été la suite de ton parcours ? Pourquoi est-ce que tu as fait le choix de retourner au pays de tes origines, de tes racines ?
Alors, 20 ans a été passé que j'avais quitté Népal. Et un jour, soudain, j'ai eu une idée de retourner. J'ai pensé qu'est-ce qui s'est arrivé à mes parents, mes sœurs, mes frères. Et aussi, plus les montagnes, les cascades, qui voulaient me parler encore. Alors j'ai eu, soudain, je veux y aller, visiter et revenir. Et voilà, j'ai soudain décidé, je suis allé au Népal, et dans mon village, ouest de Katmandou. Et avant de venir... Première fois, quand j'étais venu en Inde, 4 jours, je devais marcher 14 heures par jour pour arriver à la frontière en courant, vraiment. Et cette fois-ci, 2 jours de marche étaient recouverts par les voitures, par les bus. Et après, 2 jours, je devais marcher pour arriver dans mon... Et quand je marchais, j'ai vu la pauvreté, les pauvres enfants, tout ça, manque de... les choses basses, la nourriture, tout ça. Alors moi, quand j'ai vu des pauvres enfants abandonnés, alors j'ai décidé de faire quelque chose au Népal pour les enfants. Et donner en même temps cette spiritualité que j'ai vécue dans ma vie, dans mon parcours de ma vie.
Et donc tu as fait le choix de te dévouer cette fois, donc pouvoir transmettre cette notion de transmission de ce que tu as appris aux enfants du Népal.
Oui, pour créer un ashram là, c'était pas facile, c'était vraiment dur. Comme j'avais presque oublié ma langue maternelle, les gens pensaient que je n'étais pas un Népalais, j'étais un Indien. Alors, c'était pas facile du tout, c'était très dur, mais j'avais une confiance, une sincérité. Alors, ce pouvoir-là qui m'a aidé. Et puis voilà, avec un enfant, j'avais commencé, mais maintenant il y a presque 300 enfants et j'ai 3 centres. Et voilà, il y a beaucoup de choses depuis 27 ans. En 1993, j'avais commencé cet ashram. Et maintenant, c'est ça.
Quand tu es retourné au Népal pour retrouver les cascades, les montagnes, j'aimerais que tu me parles de tes retrouvailles avec ta famille aussi à ce moment-là. Est-ce que tes parents étaient toujours dans le village ? Tu as retrouvé tes frères et sœurs ? Est-ce qu'on t'a reconnu ? Est-ce qu'eux avaient aussi quitté le Népal pour faire un chemin comme le tien ? Ou parce que là, il y a quand même un décalage énorme entre les gens des montagnes qui restent dans leur village et le parcours que tu as réalisé à travers l'Inde.
Ah oui, parce que mes frères, ils étaient déjà partis. Il y avait seulement 2 frères qui étaient là. Nous étions 5 frères. Alors, les autres 2 frères qui étaient déjà partis, 2 sœurs, elle était mariée. Et puis une sœur qui était née après, quand j'avais parti, elle était là, elle avait 12 ans à cette époque-là, quand j'étais là. Et puis ma maman, elle ne croyait pas parce qu'elle faisait beaucoup de pénitence pour avoir son fils aîné. On n'avait aucune relation, pas de lettres, rien du tout. Alors, pour moi aussi, j'avais oublié le sommet. Heureusement, j'avais trouvé quelqu'un, une jeune fille, qui m'a guidé jusqu'à ma maison. Et c'était le soir, j'ai dit à ma maman, j'ai appelé maman, et puis elle est sortie, elle me regardait, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. « Qui es-tu ?» elle m'a demandé. Moi, j'ai dit, « Je suis ton fils. » Et puis elle a dit, « Oui, avec tes dents écartées, tu sembles mon fils, mais montre-moi ton pied gauche. » Et je lui ai montré mon pied gauche parce que mes deux orteils sont attachés quand j'étais petit. Il y a eu un wound, une blessure, et puis ça a attaché moitié de deux orteils. Alors elle a touché ça, et puis après elle a dit, oui, tu es mon fils. Mes deux orteils sont attachés quand j'étais petit. Alors elle a touché ça, et puis après elle a dit, oui, tu es mon fils. Voilà, c'était la réunion. Et puis, comme j'aimais tellement les montagnes, les cascades, tout ça, alors les gens, ils m'ont demandé combien d'argent tu avais acheté, et tu avais amené pour, ou qu'est-ce que tu avais acheté. Alors je n'avais rien parce que ce n'était pas l'importance pour moi. Peut-être quand j'étais petit, l'importance était tout ça, mais après, quand j'étais grandi, ce n'était pas important. Mais pour eux, c'était le plus important, ce qu'ils me demandaient de ces choses-là. Alors, moi, je ne peux pas répéter à tout le monde toutes ces choses-là, qui n'avaient aucune, désir de vraiment apprendre ce que je voulais, ce qui est la vie spirituelle, tout ça. Comme ils étaient pauvres, ils ont battu toute leur vie pour remplir la nourriture. Leur conscience, ils sont simples, mais leur conscience est sur cette nourriture, tu vois. Alors moi, j'évitais les gens, j'évitais les chemins, et puis je marchais par des ruisseaux, par des rivières, et montais dans les hautes montagnes et méditais. Quelques mois après, j'ai réalisé que je devais faire quelque chose pour les enfants, voilà.
Et là, comment tu as... Parce qu'un ashram, ça veut dire qu'il faut acheter de la terre, il faut construire le bâtiment, donc il y a quand même cette réalité économique et matérielle à laquelle on ne peut pas échapper.
Ah oui, il y avait quelques amis quand j'étais ici qui m'ont ouvert un compte à la banque ici, à Pondichéry. Alors j'avais un peu d'argent dans la compte. Finalement, je voulais donner cet argent à l'ashram de Pondichéry, mais quand j'étais au Népal, le but était clair, que cet argent qu'on doit faire, parce que je n'ai jamais bu l'alcool, je n'ai jamais fumé, alors l'argent, je n'avais pas besoin. Alors les gens, ils mettaient, parce qu'il y avait beaucoup d'Indiens, même les étrangers que je donnais le cours de sanskrit, yoga, des fois ils voulaient m'aider, mais je leur disais, je n'ai besoin de rien. Vous donnez à l'ashram ou donnez. Je n'ai pas, mais quand même, ils disaient, ils voulaient me donner, alors je disais, voilà, il y a un compte, vous mettez. Cet compte aussi a été ouvert avec un homme de Lucknow, nord du Lind, qui m'aimait beaucoup et il avait ouvert dans mon nom. Mais cet compte, encore, ça existe.
Et c'est grâce à cet argent que tu as pu lancer tes projets voilà, là-bas en Népal.
De début aussi, parce qu'il y a eu quelque chose en moi de créer des choses, des activités qui amènent d'argent. C'est-à-dire vendre, faire l'encens, fabriquer l'encens, vendre, et garder les vaches, vendre le lait supplémentaire, légumes bio, biologiques, et puis vendre tout ça, faire les pashmina, tanka, le guest house, et puis le trek, tout ça. Alors moi-même, je faisais le guide dans les Himalayas pour gagner des sous pour les enfants.
Oui, donc vraiment, ça c'est important de le comprendre, le fonctionnement de l'ashram aujourd'hui. Il y a cette idée d'autonomie économique et financière, donc l'ashram génère ses propres ressources par, tu le disais, les vaches qui vont produire du lait qui va être vendu au marché, des légumes qui vont être produits par les enfants qui sont avec toi et le staff qui travaille avec toi, l'encens, plus les pashminas, plus cette agence de voyage qui permet d'emmener des voyageurs au Népal, vraiment pour pouvoir trouver ses propres fonds, ses propres ressources et ne pas être dépendant des fonds extérieurs à l'ashram.
Oui, exactement, c'est ça. Au début, quand j'avais acheté dans la banlieue de Katmandou, une vieille, vieille, très vieille maison, comme je n'avais pas assez d'argent. Mais avant ça, je vivais dans un appartement à Katmandou que je devais payer loyer chaque mois. Et moi, j'ai dit, si je reste là dans dans la ville, mon argent va bientôt terminer et on sera où? Alors, j'ai acheté cette vieille maison dans la banlieue de Katmandou, où il n'y avait pas de l'eau, de l'électricité, de rien, rien du tout. Pas de toilette, salle de bain. Alors de zéro, j'ai commencé avec un enfant, mais avec beaucoup de foi, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'énergie. C'est ça qui amène toutes les choses. Si on est sincère, toutes les bonnes choses viennent, bonnes idées viennent. Si on est malheureux, si on n'est pas sincère, si on a des intérêts personnels, des désirs personnels, l'abondance ne viendra. Alors là, pour faire venir l'abondance, on doit être prêt aussi. Les énergies sont divines, toutes les énergies de l'argent, de beauté, tout. Alors, s'il y a la sincérité, ça attire.
Et cette abondance, donc toi, tu la vis dans le quotidien?
Oui, exactement. Exactement.
Donc aujourd'hui, de quoi a besoin tes projets, ton ashram?
Ah, il y a toujours, parce qu'il y a des enfants, maintenant il y a plus que 250 enfants, il y a quelques adultes qui nous aident, et nous avons besoin de plus de monde, des gens qui peuvent venir aider, et bien sûr, là, comme ils vont dans l'université qui coûte très cher, alors on a toujours besoin d'aide des amis. Mais on gagne aussi, des fois c'est pas suffisant aussi. Quelqu'un qui veut vraiment venir et aider et réaliser et apprendre et sentir cette présence, cette abondance de l'intérieur, vous pouvez venir et faire.
Donc pour venir, il faut taper les enfants de Ram sur internet et on a toutes les infos. Ou alors c'est le Sri Aurobindo Ashram à Katmandou, hein, c'est ça? C'est comme ça qu'on peut te trouver?
Oui, oui, vous pouvez taper ça.
Ou les enfants de Ram pour vraiment avoir l'ensemble du site, avoir une vision globale des projets que tu portes aujourd'hui. Ram, on parle en français. Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu connaisses notre langue? Comment tu l'as appris? Pourquoi est-ce qu'on a la chance de pouvoir échanger dans ce micro avec une langue qui n'est pas la tienne?
Oui, parce que quand j'étais à Pondichéry, avant je n'aimais pas la mer, comme elle était française. Mais il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie. Après, j'ai commencé à l'aimer. Et puis, avant, je lisais que Sri Aurobindo en anglais. Mais après, quand j'ai commencé à l'aimer, j'ai soudain décidé un jour, je vais la lire en français parce qu'elle avait écrit tout en français. Pourquoi pas lire en français? Alors, j'ai lancé sur cette œuvre-là. Et dans 3 mois, j'étais capable de lire et de comprendre, de parler. C'est ça. Alors, quand on a vraiment de l'intérieur quelque chose, ça vient. Il y a des gens qui disent « Ah, cette langue, c'est tellement difficile, tellement dur. » Mais pour moi, ce n'était pas le cas.
Okay, donc, c'est par la lecture des écrits de la mère que tu as appris notre langue, le français.
Oui, exactement.
Est-ce que ça t'a ouvert des portes, pouvoir parler le français?
Oui, ça. Et puis, tu sais, quand je suis en France, et puis... Maintenant, plus en plus, j'ai des amis français qui viennent et puis que j'ai l'occasion de parler assez souvent. Et puis quand je suis en France, je vais souvent une fois au moins par an, pendant 1 mois ou 2 mois, et j'ai fait retraite de yoga et méditation. Alors, j'anime tout en français. Alors, ça rafraîchit ma langue française.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ton parcours est incroyable. Petit enfant de la montagne dans l'Himalaya, dans un village perdu, tu te retrouves maintenant à explorer le Népal, puis l'Inde, puis le monde entier. Comment ça a commencé, le fait que tu ailles à l'étranger pour parler, pour donner des workshops, pour animer des stages? Quand est-ce que ça a commencé, cette nouvelle étape de transmission? Parce que c'est de la transmission que tu fais, finalement.
Depuis il y a 20 ans maintenant. Avant, j'allais aux États-Unis, au Canada. Et puis maintenant, récemment, je n'ai pas beaucoup de temps pour y aller. Et puis maintenant, plutôt, j'ai beaucoup d'amis en France. Alors, je suis relié avec la France. Alors, je vais seulement en France à ce moment-là, c'est-à-dire chaque année. Et voilà, et puis maintenant, peut-être, si vous voulez savoir plus, il y a mon livre aussi en français. On n'a même pas publié en anglais. Première, c'est en français. Alors, le livre, c'est « Un enfant des Himalayas, Ram Chandra Das ». Si vous trouvez ce livre, vous pouvez lire tout mon vie en détail.
Un enfant des Himalayas, Ram Chandra Das. Oui. Ram Chandra, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous une partie de ta vie, de ton existence. Peut-être pour terminer, j'aimerais que tu nous donnes quelques citations, ou quelques phrases, ou quelques mantras, quelque chose qui puisse, dans une pratique quotidienne, nous aider à trouver du sens à nos vies, ou peut-être trouver un peu plus de bonheur dans nos vies.
Alors, la vraie vie commence quand on est intériorisé, c'est-à-dire quand on est avec le lien de notre âme. Alors, pour avoir cette situation, cet lien avec notre âme, il faut méditer, il faut se calmer, il faut être conscient avec toute la terre, toute la création, et ne pas avoir les désirs pour les matérialismes, pour soi-même. C'est ça les bonnes choses qu'on doit pratiquer d'abord. Et puis répéter des mantras, c'est bien. Vous pouvez répéter par exemple une mantra de divin, la mère divine. Om Anandamayi, Chaitanyamayi, Satyamayi, Paramé. Alors moi, je répète cette mantra. Om Anandamayi, Chaitanyamayi, Satyamayi, Paramé.
Namasté.
Namasté, merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher,
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.